Bon, nous entreprenons aujourd'hui la 20e leçon dans notre série « La théologie réformée systématique ». Nous allons aujourd'hui examiner les propriétés de la parole écrite de Dieu dans la 3e partie. Aujourd'hui, on va examiner la véracité inhérente de la parole de Dieu. Donc, les points qu'on va regarder aujourd'hui vont être les suivants. Le premier point, la véracité inhérente définie. Le deuxième point, la véracité inhérente clarifiée. Le troisième point, la véracité inhérente et l'enseignement de la Bible. Et le quatrième point, la véracité inhérente, ses implications pratiques. Le mot inhérente signifie tout simplement sans erreur. Et la véracité, c'est la vérité. Par conséquent, par véracité infaillible, nous entendons que la Bible ne déclare rien de contraire à ce qui est vrai et réel. Et tout ce qu'elle déclare est fidèle et exact, car c'est la parole de Dieu. Nous reproduisons ici une partie du paragraphe 5 de la Confession de foi baptiste de Londres de 1689, à laquelle nous souscrivons. Ça dit, néanmoins, malgré la valeur de ces arguments, notre assurance totale et notre conviction du caractère infaillible de sa vérité et de son autorité, toute divine, proviennent de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, rendant témoignage dans notre cœur par et avec la parole. Donc, on va regarder le premier point, la véracité inhérente définie. En 1978, des dirigeants chrétiens évangéliques de nombreuses dénominations se sont réunis pour le Conseil international sur l'inhérence biblique à Chicago, aux États-Unis, en réponse aux attaques contre cette doctrine de l'intérieur de l'évangélisme. 240 personnes ont approuvé une déclaration sur cette doctrine, affirmant que Dieu est lui-même la vérité et ne dit que la vérité, et que la Bible est la propre parole de Dieu. Ils ont proposé cette définition de l'inhérence. Étant entièrement et verbalement donnée par Dieu, l'Écriture est sans erreur ni faute dans tout son enseignement, pas moins dans ce qu'elle dit des actes de Dieu dans la création, des événements de l'histoire du monde et de son propre, ses propres origines littéraires sous Dieu. Cela dans son témoignage de la grâce salvatrice de Dieu dans les vies individuelles. Ils ont également averti « L'autorité de l'Écriture est inévitablement compromise que si cette infaillibilité divine totale est de quelque manière que ce soit limitée ou ignorée ou rendue relative à une vision de la vérité contraire à celle de la Bible. » Et de telles défaillances entraînent de graves pertes à la fois pour l'individu et pour l'Église. Donc, je vais vous lire un texte. C'est une brève présentation sur les trois déclarations de Chicago. Il y en a une qui a été faite en 1978, une autre en 1982 et une autre en 1986. Ça a été fait par The International Council on Biblical Inerrancy. Donc, c'est le Conseil international sur l'inhérence biblique. Alors, je vous lis la déclaration. La Bible est-elle inhérente, c'est-à-dire sans erreur et fiable dans ses manuscrits originaux? Quelle vérité enseigne-t-elle? Comment la lire? C'est pour répondre à ces questions que le Conseil international sur l'inhérence biblique a organisé trois rencontres, ayant abouti sur trois déclarations distinctes. Voici ce qu'en dit Le théologien canadien James I. Packer, qu'on dit souvent G.I. Packer. Alors, le Conseil international sur l'inhérence biblique a été fondé en 1977, conçu pour durer 10 ans et atteindre dans ce délai un objectif précis. Celui-ci était d'œuvrer, Dieu voulant, par des publications et de l'enseignement académique, à la consolidation de la confiance chancelante du peuple chrétien dans l'entière vérité des Écritures. Véracité. Puisqu'une telle perte de confiance estompe l'affirmation des absolus du christianisme authentique et émousse le zèle à les maintenir, la tâche paraissait urgente. 10 années d'efforts consacrés à inverser la tendance au scepticisme à l'égard de la Bible, cela paraissait ni trop long quant au travail à faire, ni trop lourd quant à la charge financière. Dans sa 10e année, et de tous les points de vue, le Conseil considère tout ce qui a été accompli comme une raison profonde, de profonde reconnaissance envers Dieu. Les 3 conférences au sommet, organisées par le Conseil et réunissant des spécialistes de renom, ont été conçues comme une série logiquement ordonnée, chacune permettant de mettre à profit les compétences et d'unifier le témoignage. Le sommet de 1978 a débouché sur une reformulation importante pour notre temps de la conception chrétienne traditionnelle de l'Écriture sainte, la révélation canonique donnée sous plusieurs formes de témoignages humains à la volonté, aux œuvres et aux voies de Dieu. Le sommet de 1982 a suscité un très large consensus autour des principes herméneutiques et des critères de l'interprétation biblique. Le sommet de 1986 entendait montrer comment la Bible correctement interprétée est pertinente dans des domaines où règne la confusion, où fait rage la controverse au sein de la culture occidentale d'aujourd'hui. D'emblée, la nécessité des 2e et 3e sommets a été manifeste, car croire la Bible inhérente ne sert pas à grand-chose si on ne sait pas comment l'interpréter. Quant à l'interprétation, elle implique aussi l'application aux réalités de la vie contemporaine. Le 3e sommet s'est préoccupé de l'application des vérités éternelles aux situations concrètes de la fin du 20e siècle. Il n'a pas mis en relief la tâche pastorale et l'évangélisation, qui cherche à assumer l'intériorisation et la mise en pratique de la vérité connue. Il a plutôt porté son attention sur ce que signifie vivre cette vérité dans le monde actuel. Le sommet ne s'est donc pas arrêté sur la discipline personnelle de la vie chrétienne, parce que de très bons ouvrages existent déjà sur ce sujet et parce que la crise ne sévit pas autant sur ce point. En revanche, il a porté son attention en premier lieu sur le fondement trinitaire qui doit déterminer la vie entière de l'Église, ainsi que son témoignage, et en second lieu, sur un certain nombre de préoccupations en rapport avec la société que l'on pourrait regrouper sous la même rubrique de l'éthique sociale chrétienne. Les thèmes choisis l'ont été en partie à cause de leur importance intrinsèque et en partie parce qu'il fallait dissiper le doute quant à la possibilité pour des chrétiens respectueux des Écritures de se mettre d'accord sur la manière de les traiter. Ainsi, comme le consensus du 1er sommet a dissipé le doute quant à l'entente possible sur la nature des Écritures et celui du deuxième sommet, le doute quant à l'entente possible sur les principes d'interprétation du texte inspiré entre défenseurs de l'inhérence. Le troisième sommet a présenté un très large consensus sur la façon dont la Bible, à laquelle on accorde sa confiance, dirige la prière, les projets et l'action dans cette société à la dérive qu'est la société présente. Nous remercions Dieu pour tous ces points d'accord qui révèlent à nos yeux une profonde signification pour notre temps. Donc, ça, c'est une déclaration qui avait été faite concernant ces trois sommets-là par James I. Packer. Alors, j'ai indiqué, pour ceux qui ça peut intéresser, l'endroit à l'Internet avec un lien où vous pouvez aller copier ces informations-là, si ça vous dit. Mais de toute façon, vous pouvez aussi les télécharger en procédant au téléchargement sur notre site web. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est la véracité inhérente clarifiée. Alors, il est important de clarifier ce que nous entendons par inhérence véracité. Commençons par ce que cela ne veut pas dire. Premièrement, nous ne voulons pas affirmer que les auteurs humains de la Bible étaient des personnes parfaites. Dans les choses autres que leur récit sur la Bible, ils pouvaient errer comme tous les hommes. Deuxièmement, nous ne prétendons pas que la grammaire de la Bible était l'absolue perfection. Nous savons que l'absolue correction de la grammaire n'est pas essentielle dans nos communications. Troisièmement, nous ne nions pas qu'il puisse y avoir des différences dans les différents manuscrits de la Bible. Nous affirmons que le Seigneur a préservé sa parole au cours des siècles. Et quatrièmement, nous ne disons pas que la Bible parle avec un langage et une terminologie de la science moderne. La Bible n'est pas un texte de science ou un document pour les techniciens ou les spécialistes, mais un livre pour les gens ordinaires. Cinquièmement, nous ne nions pas que les Écritures utilisent un langage poétique ou symbolique pour parler de certaines réalités. Par exemple, le lever du soleil et le coucher du soleil. Sixièmement, nous ne nions pas que la Bible utilise des figures de style, comme lorsqu'elle parle du bras, de la main ou du doigt de Dieu. Nous comprenons que ce sont des symboles ou des anthropomorphismes. Septièmement, nous ne prétendons pas que nous ne rencontrons pas de difficultés dans l'interprétation de la Bible. Nous reconnaissons humblement que notre compréhension est souvent limitée ou même confuse. Nous affirmons que l'inhérence dans la véracité des Écritures signifie que les manuscrits originaux sont vrais. La Bible ne peut errer parce qu'elle est la parole de Dieu. Par tous les moyens, nous devons examiner attentivement notre compréhension de la Bible lorsqu'elle est mise au défi, car nous sommes certainement capables de mauvaises interprétations. Cependant, dans la mesure où Dieu a parlé sur un sujet, nous devons accepter sa parole même si tout le monde la contredit. Si nous ne le faisons pas, le lieu de l'autorité passe de Dieu à l'homme et notre Église a franchi un tournant sur une trajectoire qui finira par conduire à sa dissolution. Bien que l'inhérence de la Bible ait été attaquée à la fois par les modernistes libéraux et les évangéliques professants infectés par les principes modernistes, une doctrine de l'inhérence bibliquement informée et théologiquement équilibrée fait partie de l'héritage réformé et orthodoxe de l'Église depuis des siècles. Une déclaration classique d'inspiration plénière et verbale aboutissant au texte infaillible des manuscrits originaux se trouve dans les écrits de William Ames, dont l'œuvre du début du 17e siècle, qui s'appelle The Marrow of Theology, était considérée comme un résumé de l'orthodoxie réformée. Ames a enseigné les principes suivants concernant la parole écrite de Dieu. Premièrement, inspiration infaillible. Il dit, seuls ceux qui sont des ministres extraordinaires, suscités par Dieu, pouvaient mettre par écrit la règle de foi et de conduite, qui en la matière était exempt de toute erreur en raison de la direction directe et infaillible qu'ils avaient de Dieu. Deuxièmement, l'inspiration verbale plénière. Dans toutes ces choses révélées par inspiration surnaturelle, qu'elles soient de droit ou de fait, Dieu n'a pas seulement inspiré les sujets à traiter, mais il a dicté et suggéré les mots mêmes dans lesquels ils devaient être exposés. A été fait avec un tempérament subtil afin que chaque écrivain puisse utiliser la manière de parler qui convenait le mieux à sa personne et à sa condition. Autre point, les manuscrits originaux infaillibles se distinguaient des traductions. Les Écritures étaient écrites en hébreu et en grec, qui étaient les langues les plus courantes et les plus répandues dans l'Église au moment où elles ont été écrites. Les traductions telles que la Septante grecque et la Vulgate latine ont été faites par des interprètes qui n'ont pas l'office de prophète. Ils n'étaient pas exempts d'erreurs d'interprétation, mais doivent être pesés selon la version hébraïque et grecque du texte. Et quatrième point, les manuscrits originaux infaillibles distingués des copies existantes. La providence de Dieu a préservé les sources de manière remarquable et glorieuse, car elles n'ont pas entièrement péri, ni n'ont été affectées par la perte d'un livre ou tachées par un grave défaut, bien qu'elles ne soient pas l'une des premières versions restées intactes. On passe au troisième point, qui est la vérité inhérente et l'enseignement de la Bible. La vérité absolue de la Bible découle de son interprétation plénière et verbale. Comme nous l'avons vu dans des études intérieures, toute écriture est inspirée de Dieu, comme nous pouvons le lire dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, au verset 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aucune partie des Écritures n'est née de la pensée ou du choix humain, mais seulement lorsque l'Esprit de Dieu a poussé les hommes à communiquer exactement ce qu'ils voulaient. Nous pouvons lire cela dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 20 et 21. « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Par conséquent, chaque mot de la Bible est la parole de Dieu. Dieu a non seulement inspiré les pensées des prophètes et des apôtres, mais il leur a donné les mots spécifiques qu'ils ont utilisés afin que les mots de l'écrivain soient les mots du Seigneur. On peut le lire par exemple Jérémie chapitre 1 verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » On peut lire aussi dans Jérémie, chapitre 36, versets 10 et 11. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Gemaria, fils de Chaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Miché, fils de Guémaria, fils de Chaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre. Même les plus petites lettres écrites sur la page sont d'une autorité divine éternelle. Par conséquent, la Bible est la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Par conséquent, la confiance en la Bible est la confiance en Dieu. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Deux autres passages, 1 Samuel chapitre 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Hébreux chapitre 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Si la Bible contient des mensonges que Dieu ne connaissait pas, alors Dieu était ignorant ou se trompait. Cependant, la Bible nous enseigne que Dieu est omniscient. Psaume 147, verset 5, « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. » Un autre passage dans Ésaïe 40, verset 28, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. » Psaume 33, verset 13 à 15, « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. » Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Psaume 139, versets 1 à 4 et verset 16. Au chef des chantres de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Et le verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Ésaïe 46, verset 10 et 11, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Nous concluons donc que la Bible est la vérité sans erreur. Quelques autres versets qui vont dans le même sens. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Apocalypse 22, verset 6, « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Deux derniers passages de psaume 12, versets 6 et 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et sept fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Et le proverbe, chapitre 30, versets 5 à 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. La grande charnière de l'inhérence est l'autorité de Jésus-Christ comme notre divin enseignant. La vérité n'est pas seulement une question de son travail, mais aussi de sa personne. Christ est la parole de Dieu. Très intéressant de se rappeler cela. Dans Jean chapitre 1, verset 1, ça nous dit que la parole était Dieu, c'est-à-dire au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 14, verset 6, donc on parle de Christ comme la vérité vivante. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Matthew Barrett, dans son ouvrage « God's Word Alone », dit, « Cela soulève un dilemme pour ceux qui s'opposent à l'inhérence des paroles du Christ. S'ils trouvent une erreur dans ce que Christ a dit, que doivent-ils faire de la personne du Christ? Notre foi dans la parole infaillible est finalement la foi dans le Fils infaillible de Dieu. Par conséquent, nous nous accrochons à ces paroles et construisons notre vie sur elles et avec une confiance absolue, car, comme on peut le lire dans 1 Jean chapitre 5, versets 20 et 21, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et le dernier point qu'on va regarder, c'est la vérité, véracité inhérente, ses implications pratiques. Puisque la parole de Dieu est pure vérité, nous pouvons et devons placer notre confiance dans ce que Dieu a dit. Faire confiance à la Bible pour la vérité, c'est faire confiance au Dieu qui ne peut pas mentir. Nous glorifions Dieu lorsque nous avons confiance en sa parole. Surtout, tout ce qui concerne milite notre confiance. Nous honorons Dieu en faisant confiance à sa parole, car nous le traitons ainsi comme le Dieu qui ne ment jamais et qui est capable de faire ce qu'il a dit. De plus, lorsque nous faisons confiance à la parole de Dieu, nous découvrons qu'il est pour nous un bouclier. Nous faisons l'expérience de sa grâce salvatrice et de sa présence aimante avec nous. Sans foi en la parole, cela ne nous profitera pas, mais par la foi en la parole de Dieu, nous plaisons à Dieu. L'inhérence n'est pas une doctrine froide et académique, mais un grand encouragement à la foi et le fondement de tout confort et espoir solide, car nous savons que Dieu ne manquera jamais aux promesses qu'il nous a faites en Christ. La doctrine de la véracité infaillible nous permet de répondre à la question « Quand la Bible affirme quelque chose, dois-je le croire ?» Nous répondons par un « oui » sans réserve. La deuxième implication pratique, c'est que la Bible est une pure source de vérité, comme une fontaine d'eau pure dans un monde où toutes les autres sources ont été contaminées par des substances nocives et l'activité de l'humanité corrompue. Si nous croyons cela, nous nous abreuverons abondamment des Saintes Écritures et aussi peu des mensonges de ce monde. Beaucoup de gens mélangent bêtement la parole avec de vastes quantités de sagesse. Alors, des sagesses mondaines dans leur esprit. Bien qu'ils puissent professer que la Bible est la vérité de Dieu, ils remplissent leur esprit des paroles de négation des méchants, des influences corruptrices des pécheurs et des moqueries fières des moqueurs au lieu de méditer sur la parole jour et nuit. Ils accordent aux médias du monde une place égale ou supérieure dans leur vie par rapport à la Bible. Cela ne devrait pas nous surprendre lorsque la mondanité étouffe la parole de sorte qu'elle ne porte pas de fruit chez de telles personnes. S'ils ne se repentent pas, ils seront perdus à jamais. Dans Marc 4, versets 18 et 19, nous lisons « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » La troisième et dernière implication, c'est que ne devons jamais essayer de corriger la Bible avec notre propre raisonnement. Nous pouvons choisir parmi les enseignements de simples hommes, mais nous devons accepter la Bible sans réserve. Paul est ici notre modèle. Acte 24, verset 14. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Romains chapitre 15, verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle ne peut être anéantie. Nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 35, « Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie. » L'Écriture est infaillible, incapable de fournir des informations fausses ou erronées. Le rôle de l'Église n'est pas de juger la parole, mais de s'y soumettre et d'y obéir. Ce n'est pas du fanatisme, mais simplement la plénitude de la foi. Deutéronome chapitre 4, verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. » Alors, quelques applications. Trois. La première, familiarisons-nous avec la doctrine de la véracité inhérente de la Bible. Utilisons les documents écrits par des groupes de pasteurs fidèles qui ont réfléchi et étudié le sujet pour nous guider. Donc, les documents qui ont été écrits par le Conseil international sur l'inhérence biblique. Alors, j'ai mis en annexe de la leçon d'aujourd'hui, vous allez pouvoir voir le texte de ces trois déclarations-là. Et c'est bon de lire ça et de se familiariser avec cela. Alors, il y a trois déclarations sur l'inhérence biblique de Chicago, une de 1918, une de 1982 et l'autre de 1986. Alors, tous les détails sont en annexe, vous pouvez les télécharger. Deuxième application, enseignons ces vérités à tous nos frères et sœurs en Christ. Et troisième, mettons en pratique tous ces judicieux conseils pour notre plus grand bien et pour la gloire de Dieu. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement. Rendons-lui grâce pour ce merveilleux trésor des Saintes Écritures. Amen.